Bonjour à tous pour cette première partie de la suite dans les idées depuis les jardins du Mons, une suite dans les idées en forme de conférence de presse à propos de quelques spectacles à l'affiche du Festival d'Avignon. Le cycle Résonance, texte et musique entrelacés proposé par France Culture à la Chartreuse se poursuit avec Rouen, la 30e nuit de mai 31 d'Hélène Sixous, avec notamment Daniel Mesguich et Luce Mouchel. Daniel Mesguich qui est avec nous ce matin pour nous parler de ce texte d'Hélène Sixous qui est centré autour du personnage de Jeanne d'Arc, sa dernière nuit en prison avant sa mort. Jeanne seule dans son cachot, mais cet espace de la prison, cette nuit obscure, résonne de toutes les voix, de tous les personnages qui ont croisé son histoire, les acteurs de ces événements, mais aussi les témoins les plus simples, ses contemporains, mais pas seulement, puisque dans le texte d'Hélène Sixous, les temps et les siècles se télescopent. Daniel Mesguich.
Ben, vous avez dit l'essentiel. Oui, effectivement, je pense que enfin, je pense qu'Hélène Sixous est l'un des plus grands, sinon le plus grand, à mes yeux en tout cas le plus grand, écrivain français vivant. Et je suis très très fier donc qu'elle nous ait proposé, qu'elle m'ait proposé de m'occuper de cette lecture. Ce n'est pas une mise en espace du tout, c'est une lecture. Je crois qu'elle écrit de manière différente, d'autre part, hein, selon les pièces et les textes qu'elle fait. Mais elle écrit un théâtre qui, au-delà de dizaines de volées de phrases magnifiques et riches en travail sur les mots, en travail sur les lettres, en travail sur le, et donc, si vous voulez, pardon pour le gros mot, sur l'inconscient, elle écrit quelque chose dont les frontières ne sont pas homogènes, si vous voulez. C'est-à-dire la frontière entre un personnage et un autre n'est pas homogène, d'où ce que vous avez dit, les voix. Et évidemment, le personnage de Jeanne d'Arc. Non pas qu'il y a un personnage plein, global, massif, qui d'autre part entendrait les voix, c'est ça, mais ça n'est pas que ça. Les voix sont des personnages, et elle est elle-même une voix d'un personnage dont elle entend une voix, etc. etc. Et au fond, je disais que les cloisons n'étaient pas étanches, si vous voulez, les frontières n'étaient pas sûres. Et c'est toute la question du sujet, donc du personnage, et donc du théâtre, au fond, qui est posée sans arrêt à chaque ligne ou presque. Alors, il y a des phrases magnifiques, bien évidemment, sans cesse, qui travaillent comme ça, mais d'autre part, on ne sait pas qui fait quoi. Et d'une certaine manière, le partage du texte, par exemple, dire simplement qu'un acteur va jouer ce personnage et un autre acteur ou une actrice va jouer cet autre personnage, c'est très difficile et c'est souvent un peu arbitraire. Après tout, pourquoi change-t-on de corps, de regard, de voix, alors qu'au fond, c'est toujours la même voix, c'est toujours le même corps, etc. Voilà, c'est ce jeu-là qui est passionnant d'abord, qui n'est pas nouveau en soi. Après tout, on pourrait prendre n'importe quel texte traditionnel et entendre les voix, et entendre que tel personnage est rêvé par tel autre, autant que cet autre le rêve, etc. etc. Mais là, disons que c'est d'abord officialisé, si j'ose dire, et d'autre part, ça, c'est le mouvement même du texte. Alors, qui écrit? Bon, Hélène Sixous, bien entendu, mais qui écrit? Au fond, c'est quelque chose qui se situe entre Jeanne d'Arc, telle voix qu'elle a entendue, tel acteur, évidemment l'auteur, voilà, et ça travaille sans arrêt comme ça. Je trouve que c'est une chose qui a énoncé peut-être simple, enfin paraît simple depuis longtemps maintenant, depuis Freud, disons, ou même bien avant, depuis Sophocle, mais qui au fond ne se fait jamais vraiment. Et voilà que Hélène Sixous travaille cette chose-là. Alors voilà, donc pour moi c'est une chose passionnante. D'autre part, le thème lui-même, cette femme qui est à la fois où tout est indécidable. Elle n'est pas un homme, elle est une femme, bien entendu. Mais il y a un homme en elle,
Je crois qu'Hélène Sixous a mis l'accent sur une facette du personnage de Jeanne d'Arc, qui est Jeanne d'Arc stratège, Jeanne d'Arc guerrière.
Jeanne d'Arc stratège, mais Jeanne d'Arc à l'écoute, c'est le cas de le dire, du monde entier. Jeanne d'Arc amoureuse aussi, Jeanne d'Arc qui va mourir tout simplement, et donc dont l'être, dont le sujet lui-même est à l'écoute de cette mort, de cette fin des choses. Oui, je pense que l'un des moteurs aussi, c'est de dire que Jeanne d'Arc n'appartient pas, comme on le croit maintenant parfois, à l'extrême droite, par exemple. Vous voyez, Jeanne d'Arc, c'est un personnage, c'est une femme sans doute géniale, qui entend, voilà. Au fond, c'est simple, c'est la pièce d'une femme qui entend, c'est tout.
Et le thème de la trahison, je crois qu'est un thème très important dans ce texte.
Oui, mais vous savez, rien n'est jamais chez Hélène Cixous, comme chez le philosophe Jacques Derrida, comme chez des gens qui travaillent aujourd'hui, n'est jamais cloisonné là encore et n'est jamais fermé, n'est jamais fini. Ce n'est pas tellement qu'il y a un personnage qui aurait été trahi par, alors mettons Charles VII, le roi, ou bien par l'évêque Cochon, ou je ne sais quoi. Non, c'est la trahison fait partie de la constitution même des choses et du monde. C'est dit d'ailleurs à un moment dans la pièce, je ne sais plus comment maintenant, et sûrement mieux que ce que je vais dire, mais la constitution même des personnages comprend une dose de trahison. Vous trahissez en parlant comme ça dans un micro, je trahis en vous répondant, en faisant semblant de répondre et devant un auditoire, etc. Il y a des mini-trahisons à l'infini tout le long du parcours. Et s'il n'y en avait pas, nous mourions. Nous serions, comment dire, c'est un peu comme deux plaques de verre sans grain de poussière qu'on collerait, essayer de les coller après. Vous voyez, on étoufferait en quelque sorte. Voilà, donc je crois que c'est les ingrédients. Vous voyez, c'est toujours très compliqué à énoncer parce que. Au fond, même dit de manière un peu qui essaierait d'être un peu analytique, au fond, c'est très simple, c'est les ingrédients de la vie. Sauf que c'est leur agencement, c'est leur mouvement, c'est leur élan qui change tout, hein, et qui fait la qualité, la différence de qualité des œuvres. Je pense que de ce point de vue-là, la pièce d'Hélène Cixous est une très grande œuvre du XXe siècle, oui.
Et cette
Du XXIe.
traversée, des consciences et des temps, en l'espace d'une nuit, cette façon de convoquer, d'évoquer tous ces personnages dans un brassage des temps, est-ce que ce n'est pas une métaphore du théâtre lui-même?
Ben c'est le théâtre même, bien sûr. Vous savez, on vit toujours, et moi je commence maintenant à avoir un peu d'expérience, et je m'aperçois qu'au fond, les thèmes, ou les thèmes des débats, par exemple, qu'on peut entendre ici même à Avignon, sont toujours un peu les mêmes chaque année, vous savez. Alors il y a la question du metteur en scène, qui est plus que rebattue, comme vous le savez. Il y a la question de la, entre guillemets, fidélité ou respect du texte, etc. Bon, toutes ces choses-là sont fatigantes pour quiconque a déjà vécu ça plusieurs fois. Moi, je crois que le théâtre, en général, et c'est l'écrivain, Hélène Cixous, l'entend et en tient compte sans même se poser mille questions à ce sujet, enfin, sans ces fausses questions, parce qu'elle s'en pose d'autres. Je crois que le théâtre, c'est le jeu du temps, justement. Le théâtre lui-même est le jeu du temps. Si, vous savez, il y a plusieurs pôles en ce moment. Il y a 80%, disons, du théâtre qui, peut-être avec beaucoup d'inculture, beaucoup de méconnaissance, voire de surdité, s'accapare une œuvre, d'une œuvre du passé et puis fait comme si on avait fait maintenant. Voilà. Et donc écrase le XVIIe ou le XVIIIe ou le XIXe siècle sous le XXe ou le XXIe. Pourquoi? De quel droit? Le XVIIe siècle n'est-il pas plus intéressant, peut-être, à bien des aspects, que le XXe ou le XXIe? Il y a un autre pôle, très minoritaire, un peu, on appelle ça néo-baroque ou je ne sais quoi, très, très orthodoxe, qui va dire non, 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 c'est le XVIIe, et on va montrer le XVIIe. Pourquoi? On est dans un musée? De quoi il s'agit? Il s'agit de montrer une œuvre comme ça, etc., etc. Non, je pense que, comme toujours, ce n'est pas un des termes du rapport qu'il faut jouer, c'est le rapport lui-même, c'est la barre du rapport, c'est le jeu des temps. Il n'y a pas un temps précis. Avez-vous déjà vu un personnage qui aurait une montre, je parle d'un vrai personnage, qui aurait une montre à son poignet ou une carte d'identité pour savoir qui il est? Jamais. Regardez bien, demandez à tous les acteurs qui jouent un personnage en ce moment au Festival d'Avignon et demandez la carte d'identité du personnage. Il n'y a pas de papier. Vous voyez, il n'y a pas de papier d'identité. Demandez-leur quelle heure il est au moment où ils disent cette phrase. Il n'y a pas d'heure possible, c'est une heure en creux, c'est une heure improbable. Eh bien, c'est ce jeu-là que nous montrons sans cesse. C'est que dans le présent, il y a d'autres temps, il y a du passé, il y a du futur peut-être, enfin il y a de la projection en tout cas, et il y a de l'hétérogénéité, il y a de l'impureté. Cette hétérogénéité, cette impureté, c'est ce qui constitue le temps même du théâtre. Certains écrivains en tiennent compte, parfois de manière très métaphorique, ils font comme si, je pense à Jean Racine ou à Shakespeare, ils font comme s'ils étaient datés, alors qu'en réalité cette date est ouverte à toutes les dates à venir, et puis d'autres, comme Hélène Cixous, mais c'est la même chose. Travaille ce creux-là, travaille cette impossibilité-là. Et il y a effectivement le mot USA prononcé, les lettres USA prononcées dans le texte sur Jeanne d'Arc. Il y a des tanks à un moment. Non pas parce qu'il y aurait, encore une fois, un écrasement d'une époque sur l'autre, non pas parce qu'il y aurait une actualisation, je ne sais quel mot débile, mais simplement parce que ces temps se tressent, se tissent, se tuilent entre eux et s'ouvrent sur un autre temps impossible à dire, impossible à définir et qu'aucune montre jamais ne pourra dire.
Le principe de résonance, c'est d'entrelacer texte et musique, et c'est Jean-Jacques Lemaître, compositeur, inventeur d'instruments acoustiques, qui a travaillé d'ailleurs souvent avec Ariane Mnouchkine, et donc qui connaît forcément à travers le Théâtre du Soleil l'œuvre théâtrale d'Hélène Cixous. Donc c'est Jean-Jacques Lemaître qui a imaginé la musique de cette lecture.
Qui a écrit une musique, si le mot écrit pouvait être vrai pour Jean-Jacques Lemaître, parce que Jean-Jacques Lemaître travaille au présent, sans arrêt. C'est un génie, absolument. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Je le découvre, je ne le connaissais pas et je suis fasciné. C'est quelqu'un qui, d'abord, qui invente les instruments, c'est-à-dire qui n'entre pas dans les circuits normaux. Ce n'est pas un vrai musicien, hein, comme il le dit lui-même en plaisantant. C'est quelqu'un qui prendrait, je ne sais pas, cette table, puis qui la tordrait un peu et qui mettrait quelques cordes, et puis voilà, ça s'appelle un instrument qui s'appellerait la table France Culture, par exemple, voyez, enfin, et il travaillerait avec, il improviserait avec. Et il est donc lui aussi, à sa manière, une Jeanne d'Arc. Lui aussi, il entend, lui aussi, il écoute. Et parce qu'il a entendu telle chose à tel moment, alors il va faire tel son. C'est comme une résonance, comme un écho. C'est comme si sa musique était à la fois avant et après l'œuvre écrite d'Hélène Cixous. Et au fond, c'est une musique de fantômes, de spectres. Cette musique vient hanter le texte. Voilà. Ce sont des sons, des harmonies, d'étranges percussions parfois qui viennent hanter le texte. Comme si la page blanche sur laquelle un écrivain écrit n'était pas si blanche que ça. Et au fond, elle était déjà pleine de quelque chose d'autre, hein, d'autres voix en quelque sorte. C'est encore des voix, si vous voulez.
Merci Daniel Mesguich. Rouen, la 30e nuit de mai 31 d'Hélène Cixous dans le cycle Résonance, programme proposé par France Culture à la Chartreuse. Et j'ai signalé à nos auditeurs que la diffusion de cette lecture aura lieu le mardi 24 juillet à 22h30 sur France Culture, naturellement. Merci.
Merci à vous.
Ella Fatoumi. Le vif du sujet, Ella Fatoumi, danseuse et chorégraphe. Vous êtes depuis peu la nouvelle présidente de la commission SACD pour la danse. Donc c'est la 5e année consécutive que le Festival d'Avignon accueille le vif du sujet, dont le principe est de mettre en présence un interprète et un chorégraphe. Et contrairement à ce qui se passe habituellement, c'est l'interprète qui choisit son chorégraphe. Donc c'est une façon de rendre hommage à l'interprète. Une fois n'est pas coutume.
Oui, tout à fait. C'est vrai que en danse, dans la danse en général et la danse contemporaine en particulier, l'interprète est souvent un anonyme et souvent fondu dans le groupe, même si dans les pièces de groupe, il y a des parties solo, des moments où l'interprète s'exprime en solo. Là, pour le vif, c'est prendre l'interprète et considérer son parcours autant qu'un chorégraphe. Et le parcours, c'est de se dire toujours comment continuer. Et moi, en choisissant les quatre interprètes de cette 5e édition du vif, intuitivement, j'avais le pressentiment que ces quatre-là en étaient à un moment où ils avaient peut-être envie d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres démarches, d'autres personnalités en tant que chorégraphe. Et donc, c'était pour eux, je leur offre l'occasion, la possibilité et la responsabilité, pour le coup, de provoquer la rencontre. Et c'est ce qu'ils ont fait, chacun à leur façon. Et pour moi, le vif, ce qui est intéressant là, c'est que ça doit revenir vraiment à un espace de laboratoire, un espace d'expérience où on ne sait pas du tout là ce qui va se produire. C'est une forme de tressage en fait entre une personnalité, deux univers, une façon de se mettre en danger de part et d'autre. L'interprète est véritablement à nu dans cet espace du jardin du lycée Saint-Joseph, parce qu'on revient cette année dans cet espace-ci, à l'atmosphère si particulière, qui est pour moi vraiment un espace d'intimité où on peut accéder à cette fragilité de l'interprète sur le plateau.
Alors, Ella Fatoumi, vous avez sélectionné quatre interprètes. Chacun d'eux, à son tour, a choisi un chorégraphe. Est-ce que vous êtes intervenu dans ce choix? Est-ce que vous les avez orientés? Est-ce que ces choix vous ont finalement été une surprise pour vous? Ou est-ce que c'était des couples? Les couples qui se sont formés, finalement, étaient un peu attendus, ne vous ont pas étonné?
Non, enfin, absolument pas. Moi, j'ai vraiment essayé d'être au plus proche de la règle, de l'esprit du vif qui est d'abord le choix de l'interprète et libre à lui ensuite par rapport à la réflexion dans laquelle il est de son trajet, de ses désirs, parce qu'avant tout, il faut qu'il y ait du désir. Et ils m'ont fait la proposition très vite. Ils m'ont appelé très rapidement, une semaine, à peine 15 jours après, en me disant, oui, ça y est, je sais, je veux travailler avec un tel. J'ai été surprise. Je m'attendais à rien de particulier. J'avais pas envie, je n'ai porté aucun jugement. C'était vraiment de leur responsabilité de dire, c'est dans ce face-à-face-là que j'ai envie d'exister, j'ai envie de me confronter à telle écriture, à telle pensée sur la danse. Et ben, ils se sont mis au travail. Moi, j'ai vraiment veillé à ce que m'y prendre vraiment très en amont, de façon à ce que de la commande naisse vraiment la nécessité. Il y a eu le désir et après que ça devienne vraiment une nécessité, qu'ils aient le temps de se retrouver en studio et d'enlever la fascination, la première séduction et d'aller plus en profondeur. Voilà.
Mathilde Apostol, je rappelle que vous avez suivi les cours du Conservatoire de danse d'Avignon et qu'en 91, vous avez reçu une médaille d'or pour un solo, justement. Donc, cet exercice du solo, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau pour vous.
Ben, le solo, ça rappelle toujours un peu ces examens que j'ai connus en conservatoire, parce qu'il y a toujours un peu ce challenge d'être tout seul sur scène et de devoir exister tout seul sur scène. Ouais, moi, ça me rappelle toujours un peu à ça, même si le travail est différent, la démarche, comment dire, la recherche est différente quand on est déjà professionnel et qu'on a travaillé dans des ateliers de création et c'est pas seulement exécuter une technique ou montrer ce qu'on sait faire, ça va au-delà, c'est un travail artistique avec une recherche et
Vous avez choisi comme chorégraphe pour ce solo du vif du sujet, Carlotta Ikeda. C'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà travaillé.
j'avais croisé Carlotta au CNDC comme intervenante dans la formation des étudiants. Et j'avais été étonnée par Carlotta. Et du coup, après ça, j'avais eu du temps en décembre il y a 2 ans. Et elle donnait un stage à Bordeaux et je suis allée le faire parce que je voulais aller plus loin. Et puis j'étais curieuse encore de ce travail et de Carlotta. Et puis, quand elle m'a proposé le vif du sujet, ça a été assez rapide. Je me suis dit, je veux connaître plus Carlotta. Enfin, c'était évident pour moi, c'est quelque chose qui m'appelait en dehors même d'un raisonnement intellectuel.
Et est-ce que dans ce face-à-face avec soi-même, un solo dansé, est-ce qu'un danseur, une danseuse, se sent plus seul, plus fragile, plus exposé?
En solo,
Oui.
oui, bien sûr. C'est un autre travail. Parce qu'un groupe, il y a quand même, serait-ce que des duos, d'avoir d'autres danseurs à côté, ça aide. C'est différent. Ça n'a rien. C'est un travail complètement différent.
Je peux juste
Oui,
rajouter
et la Fatoumi.
qu'en plus, là, le fait d'être en extérieur, il y a vraiment une mise en danger, il n'y a aucun artifice. Et pour le danseur, il est très difficile en plus de trouver l'énergie à 11 h du matin et à 18 h,
Ne sont pas
c'est
des
une
horaires
gage
très habituels
tout à
pour les
fait
danseurs.
inhabituelle, autant pour les danseurs d'ailleurs que pour le public. Et c'est ce qui fait aussi, je crois, le charme de cette proposition.
Carlotta Ikeda, je rappelle que vous avez fondé en 1974 la compagnie Ariadone et vous avez vous-même interprété et chorégraphié pour vous un solo. C'était, je crois, en 1996, Waiting, c'est ça? Alors, est-ce que le fait de penser une chorégraphie pour quelqu'un d'autre est un travail totalement différent de celui qui consiste à préparer sa propre chorégraphie qu'on va interpréter.
Excusez-moi, je ne parle pas très bien français, hein. Mais non, pas di différemment, c'est traverse de mon corps et en ce moment avec Mathilde. Donc, quand je travaille tout seul, c'est la même chose de travail. C'est pas différente, mais le corps différente. C'est pour ça que c'est très difficile de moi je dois arriver comprendre de son désir, son intérieur, et là c'est partagé. Et donc Mathilde aussi c'est très difficile et moi aussi c'est, mais ça c'est le résultat, donc bonne expérience.
Le solo que vous avez imaginé donc pour Mathilde l'Apostole s'intitule Tampopo. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pissenlit.
Et alors quelle était l'idée directrice dans ce travail?
Oui, parce que moi, j'ai cherché dans son intérieur, et elle, c'est un peu bizarre. C'est une fille et garçon. C'est pas vraiment une fille, c'est pas vraiment un garçon, c'est entre deux. Et là, j'ai cherché dans son but, sujet. Et à un moment, on a travaillé. À un moment, dans ma tête, arriver à pissenlit. Et ça, c'est l'univers. Hein? Et donc, j'ai posé sur la scène pissenlit. Et pas assez d'explications?
Non, il faudra découvrir, il faudra le voir. Alessandro Bernardeschi, vous êtes italien.
Oui.
Et donc votre formation de danseur s'est faite en Italie?
C'est faite en Italie, tout à fait, oui. Mais
vous
aussi
avez
en France.
Également travaillé
bah,
en
oui,
France.
Oui, oui, je suis en France depuis 90.
Donc. Alors, vous avez déjà travaillé en France, je crois, avec Caterina Sagna. Et c'est Caterina Sagna que vous avez choisi pour ouais. Ce solo qui s'intitule Transgédie, dans le cadre donc du programme du Vif du sujet. Et donc vous connaissiez déjà la façon de travailler de Caterina Sagna.
Ouais. Mais c'est bien pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est une occasion justement donnée par le Vif du sujet de faire un solo. J'ai voulu bien creuser le travail avec Caterina que j'avais déjà commencé il y a une dizaine d'années. Après, on s'était un peu s'était séparés. On a refait La Signora il y a 2 ans de ça. Et l'occasion de faire un solo, c'est pas comme faire une pièce avec des autres interprètes, comme disait aussi Mathilde. Donc, c'est une pièce où tu as la responsabilité, ou l'interprète a la responsabilité d'amener du début à la fin une chose, un discours jusqu'au bout. Donc, pour un solo, ça m'intéressait, le regard de Caterina porté sur moi pour
aboutir. Est-ce que ça change radicalement le rapport de travail avec une chorégraphe qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé? Est-ce que ce rapport de travail change radicalement lorsqu'on est face à face?
Ça s'approfondit et ça s'est enrichi en complicité, en connaissance l'un de l'autre.
C'était pour vous la première expérience de solo?
Exactement. À part des solos dans des pièces avec des autres interprètes, c'est la première fois que j'ai fait un solo. Et donc là, je pense que c'était vraiment un très très bon moment pour moi de faire cette expérience. Là, dans mon trajet, dans mon parcours, de mon âge et tout, je suis très content.
Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette expérience?
Bah, ça continue,
comment elle, hein, comment elle que... va réjaillir sur le travail à venir? Comment, qu'est-ce que vous avez, quel profit vous avez tiré de ce travail?
Je ne sais pas encore. Ça va,
c'est
ça
trop
va.
Tôt pour le
c'est
savoir.
C'est trop tôt, mais quand même en maturité, en confiance, je ne sais pas. C'est encore trop tôt, mais je pense qu'il y a de ça. Il y aura de ça après.
Caterina Sagna, vous avez étudié la danse, le théâtre, la musique, le mime. Vous avez travaillé notamment avec Karine Carson, je crois, entre autres. Vous avez fondé la compagnie Nadir en 87, qui en 99 est devenue la compagnie Caterina Sagna. Oui. Et vous avez déjà fait des solos, chorégraphié des solos, mais toujours pour des femmes. Alors, avec Alessandro Bernardeschi, c'était la première fois que vous attaquiez une chorégraphie de solo pour un homme. Alors, est-ce que cela implique la conscience d'énergie différente, d'un corps différent.
Oui, bien sûr, mais aussi c'était un désir que j'avais déjà de faire un solo pour Alessandro. Et de côté, j'avais aussi envie de travailler depuis un paire d'années sur Shakespeare. Donc l'occasion de vivre de ce sujet, ça me permet tout d'un coup de mettre ensemble deux désirs importants. Et c'est une occasion très bien parce que je n'ai pas dû faire aucun effort. Et c'est pour ça que le travail s'est venu assez vite et tout de suite parce que c'était déjà préparé quelque part. Parce que le fait d'avoir fait des solos pour des femmes, ce n'était pas un choix. C'est, bon, c'est des choses qu'on analyse après. Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas un choix parce que je ne voulais pas faire des solos pour des hommes.
L'occasion ne s'était pas présentée, tout simplement.
Oui, voilà. Mmh. Ce n'était pas présenté. Évidemment, il n'y avait pas justement un désir tellement important pour chercher l'occasion avant. En plus, les femmes pour lesquelles j'ai fait des solos, c'est moi-même et ma sœur. Donc aussi, là, c'était déjà assez
Il y a une très grande proximité.
Oui.
Oui.
Et donc, avec lui, pour moi aussi, au niveau personnel, c'était très différent par rapport aux autres occasions parce que pour la première fois, j'ai pu aller chercher d'aller en profondeur avec quelqu'un que je connais, mais je ne connais pas aussi bien que ma sœur, par exemple, ou moi-même. Enfin, au moins, je me connais depuis que je suis née, et lui un peu plus tard. Et donc, c'est très bien parce que, en même temps, c'était quelqu'un que je connaissais déjà, donc il avait beaucoup de confiance réciproque, donc je pouvais me permettre d'essayer des choses en sachant qu'il n'y aura pas eu de problème en cas que je puis essayer d'aller en profondeur sans avoir peur de blesser ou de faire des pas,
des faux pas.
Dangereux. Enfin, voilà.
Alors, chacune de vos chorégraphies, Caterina Sagne, a toujours été basée sur des textes littéraires, Cocteau, Barthes, Rilke. C'est presque une constante dans votre travail.
Presque.
Et cette fois-ci, pour Transgédie, c'est Shakespeare. Alors, pourquoi Transgédie? Pourquoi ce S?
Parce que c'est les mots de Shakespeare qu'on a choisis qui font partie de la construction interne du spectacle, qui sont des mots que le public, que les gens ne savent pas. C'est une construction entre nous qui sert vraiment pour la structure intérieure de la pièce. J'ai choisi des mots d'après une tragédie de Shakespeare, c'est pas important laquelle, pour les utiliser comme comme excuse, c'est pas le mot juste, comme excuse pour parler comme prétexte pour parler d'une autre tragédie. Tragédie, c'est un peu exagéré comme mot, mais pour parler de ce qu'il peut y avoir de tragique dans l'expérience de l'interprète.
Mais
c'est
trans...
pour ça que c'est transgédie, parce que, enfin, pour ça, pour moi, c'est aussi pour ça, parce que c'est dans le mot transgédie, il y a quelque chose de tragique, en même temps, il y a quelque chose de comique. C'est, on prend une distance en même temps avec la tragédie, donc c'est pas l'image, c'est pas quelque chose que dit, c'est tragique, mais en même temps, c'est sur le tragique. Donc, il y a une ironie
et un détachement, une distance.
Pardon. Une ironie et une distance, apparemment, pour parler des choses tragiques qui sont tout à fait radiquées dedans nous au moment de la construction d'une pièce, au moment de l'interpréter sur scène. Et c'est, pour moi, ça, c'était un cadeau que j'ai fait à Alessandro et que lui, il m'a fait, parce que c'est comme un miroir, c'est pour lui, mais c'est moi, c'est elle, c'est nous, c'est le moment de la solitude, donc on ne peut parler, parce que de toute façon, on est des privilégiés, parce que c'est un métier magnifique par rapport
à mon avis, à tous les autres moments. Là, c'est personnel. Mais en même temps, il y a quelque chose de très dur que tout le monde en connaît, mais on ne parle pas. C'est après un spectacle, tout le monde attend d'être. Tout le monde attend d'être reconnu et d'être valorisé. Même si tout le monde dit qu'on est prêt à écouter tous les critiques comme ça, mais au fond, on attend que les gens disent
bien.
Et c'est un peu tragique. C'est...
Oui, mais dans le mot trans, j'ai dit, on entend aussi le mot trans. Alors, est-ce que c'est un solo en trans?
Pas en trans, mais il y a aussi de ça. En fait, ce qu'on a cherché de faire, c'est de donner une carnalité, une physicité, physicalité aux paroles de Shakespeare. Donc, au début, ça devait être un monologue. Ça a devenu un final. C'est un monologue de moi-même, en fait. Mais j'incarne trois personnages de tragédies shakespeariennes qui se parlent entre eux, sans mots. On a créé trois alphabets différents pour chacun de ces personnages.
Quels sont ces trois personnages?
C'est Othello, Desdemona et Iago. Et donc, on a cherché trois façons de... Je l'ai dit, non?
Oui, justement, la structure interne du spectacle.
Et c'est qu'on avait, on cherchait de faire des trois alphabets différents pour chacun de ces trois personnages. Donc un alphabet violent, un proie de la jalousie pour l'un, un autre, la victime, un alphabet plus lyrique, plus féminin, plus poétique, entre guillemets. Et l'autre, un peu plus sournois, du traître, un sourire, un faux sourire qui cache derrière une âme, un sourire de Jena Ridens, je ne sais pas comment dire, un sourire comme Berlusconi, un peu quelque chose comme ça.
Mais si
Caterina Sagna.
Si je peux me permettre, il y a aussi, à mon avis, tout simplement le trans, comme vous demandez, parce qu'à un moment, c'est le trans de passage entre l'interprète qui attend de faire quelque chose et le moment de commencer à jouer. Donc quand on joue, il y a quelque chose qui, sans exagérer, c'est pas évidemment le trans, mais il y a quand même, on rentre dans un boule qui est très fragile et qui n'est pas tout à fait lié avec la réalité normal. Et lui, on a essayé de le faire, de le montrer. Il y a vraiment un moment où il rentre et puis après, il est parti. Et nous, autant que public, en plus, on ne sait pas justement la structure interne, donc on est obligé à le suivre, obligé. On le suit dans cette espèce de délire très construit, mais qu'on ne comprend pas, on n'a pas le code pour le déchiffrer complètement. Mais quand il joue bien, quand ça va bien, on est amené par lui tout le temps, par l'énergie justement, par ce trans, par ce désir de communication et cette clarté d'image, de clarté d'image et de communication. Parce que chaque mouvement, justement, est soutenu par lui, par un sens très spécifique d'un mot ou d'un dialogue d'une tragédie de Shakespeare. Donc c'est plein d'émotions.
Transgédie, Alessandro Bernardeschi, Caterina Sagna, Tampopo, Mathilde Lapostole et Carlotta Ikeda. Oui, et la Fatoumi.
Aussi que le vif, c'est une interprète, un chorégraphe, mais c'est aussi la musique. Et sur deux projets, notamment sur le projet de Carlotta et de Mathilde, il y a la présence donc d'une tierce personne, c'est Alain Mahé, qui est compositeur et qui a essayé, donc en fait c'est un triangle qui s'est créé pour Tampopo. Donc moi j'aimerais bien peut-être que Alain nous raconte un peu.
Il faudra vous rapprocher du micro.
Oui, je vais essayer. Ça s'est passé un peu en escalier, c'est-à-dire que j'ai travaillé, en fait ça serait la quatrième pièce que j'ai composée pour et avec Carlotta. Là ça va. Et en fait, ce travail se fait réellement au plus proche, en fait, dans ce cas-là, du travail de Mathilde, et dans le même temps, avec Carlotta et Mathilde, en fait, c'est réellement des propositions qui se joignent. Enfin, quand Carlotta parle de pissenlit, je dis ruche.
Comment mettre un musique de pissenlit?
Je dis ruche ou miel de pissenlit, mais je sais pas. C'est bon. J'ai aussi au départ préparé des matériaux avec Hélène Bréchamp, harpiste, oui. Donc qui résonne dans cette pièce-là de manière peut-être un peu lointaine, mais très qui a un fil important, et des paysages demandés en fait par Carlotta qui permettent de placer des moments très particuliers de la pièce à trois reprises en fait. Voilà,
Merci, le vif du sujet, c'est cette semaine à Avignon. Merci. Retour à la Chartreuse avec Mélodie 6 dans le cadre des 28e rencontres d'été de la Chartreuse. Alors, Daniel Girard, vous êtes le directeur de la Chartreuse. Vous pouvez peut-être nous parler de la vocation de la Chartreuse qui accueille pendant toute l'année des écrivains en résidence, qui peuvent travailler dans la tranquillité, la sérénité de ce lieu magnifique, dans des cellules de moines, enfin un peu plus que des cellules peut-être. Et puis pendant le Festival d'Avignon, on voit le résultat de tout ce travail. Et dans le cadre de Mélodie 6, il s'agit de confronter, d'associer des auteurs de théâtre contemporain, des acteurs et des musiciens.
Oui, c'est une transition avec ce qui vient d'être dit avant, en tout cas, puisque la danse utilise l'écriture, puisqu'ils ont utilisé l'écriture de Shakespeare pour s'inspirer. Je pense qu'un jour, ils s'inspireront d'auteurs contemporains, c'est ça qui me ferait plaisir, plutôt que d'utiliser Shakespeare, qui est tout à fait honorable aussi. Mais enfin, il y a de la part des auteurs contemporains certainement une possibilité de travail avec les danseurs. C'est une réflexion que j'avais faite il y a beaucoup d'années à Dominique Bagouet pour qu'il vienne travailler justement avec des auteurs à la Chartreuse. Et à l'époque, Dominique Bagouet avait refusé parce qu'il ne se sentait pas prêt. Et 3 ans après, il l'a fait. Donc je pense que rien n'est perdu par rapport aux chorégraphes contemporains. Et un jour, la Chartreuse s'attaquera à cette partie-là du problème. Pour le moment, en effet, on a choisi cette année d'inviter Jean-Paul Delors et le Lézard Dramatique, parce que Jean-Paul Delors, que nous connaissons bien, c'est une troupe lyonnaise de Lyon, et il nous a fait une proposition autour d'une mise en voix, d'une mise en musique, d'une mise en espace de 6 textes d'auteurs contemporains. Alors ça, bien sûr, ça nous concerne, puisque la Chartreuse, comme vous le dites, c'est le Centre national des écritures contemporaines, c'est-à-dire c'est là où on accueille des écrivains en résidence, et en effet, on appelle ça des cellules, pour leur faire peur au départ, pour décourager, parce qu'il y a beaucoup de monde qui tape à la porte.
Mais pour ceux qui n'ont pas un esprit ascétique.
Ce sont des maisons de moines, hein, c'est-à-dire ces 3 pièces avec jardin privé. Donc c'est une résidence un peu luxueuse, mais donc notre intérêt...
Il y a de quoi susciter des vocations d'écrivains.
On n'est pas là pour susciter des vocations d'écrivains. Non, 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 non. On est là pour accueillir des écrivains qui ont déjà écrit et qui font partie soit du sérail déjà, soit sont à l'orée d'y rentrer. Et c'est ça notre travail, c'est de faire qu'une grande famille d'écrivains de théâtre puisse se rencontrer quelque part, puisse exister quelque part, et pour que autour d'eux, on puisse construire un certain nombre d'initiatives. Et donc pour Mélodie 6, c'est un peu ça qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que ça nous a semblé extrêmement intéressant d'avoir une proposition qui associe musique et théâtre. Et ça s'associe en plus très très bien avec la collaboration que nous menons avec France Culture actuellement, puisque toutes les lectures de France Culture, c'est musique et théâtre, donc on s'est associé complètement à cette démarche. en se disant, et peut-être que ça sera une chose dont je vais avertir les gens de France Culture, associer musique et théâtre, ça s'appelle un mélodrame. Et donc nous avons déjà travaillé sur le mélodrame à la Chartreuse, on a fait travailler des compositeurs contemporains et des auteurs, donc avec récitants, et c'est ça qui a donné 4 mélodrames qui ont été très 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 bien accueillis. Et donc cette année, je pense que notre mélodrame, qui s'appelle Mélodie 6, et qui n'est pas avec un récitant, mais avec 6 récitants, aura la faveur du public. Mais je pense que c'est une démarche qui peut intéresser le public, dans la mesure où le public qui vient à la Chartreuse, c'est pas le grand public, heureusement, parce qu'on ne peut pas accueillir le public de la Cour d'honneur, mais en tout cas le public d'Avignon qui est friand de recherche, qui est friand de découverte, qui est friand de choses un peu à l'écart de la mode, à l'écart du bruit et de la médiatisation.
Alors, il n'y a eu ni thème ni genre imposé pour Mélodie 6. Comment s'est fait le choix des 6 auteurs, dont on pourrait peut-être rappeler les noms?
C'est Jean-Paul Delors donc, qui a discuté avec nous des auteurs, et donc il en a choisi 6. C'est Natacha de Ponchara, Patrick Herman, Eugène Durif, Sonny Labutanzi, Jean-Yves Pic et Philippe Mignana. C'est un éventail d'auteurs extrêmement différents les uns des autres, mais qui ont tous, j'allais dire, un lien. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ce sont des écrivains contemporains, presque tous vivants, puisque hélas, l'un d'eux est mort, mais ce sont des écrivains contemporains. Patrick Herman existe toujours, c'est un écrivain contemporain pour nous, et donc qui parle des problèmes contemporains, des problèmes du monde actuel, qui parlent de ce qui nous touche et de ce qui touche le public, et surtout les jeunes d'ailleurs.
Alors, au cours d'une même soirée, on peut entendre 6 courts textes contemporains, avec pour chacun d'eux une partition originale qui est jouée en direct. Alors, Dominique Lantin, vous êtes musicien et vous avez participé de façon très, très importante à Mélodie 6. Alors, comment se fait ce lien entre le texte et la musique? Est-ce qu'on commence d'ailleurs par choisir le texte ou par choisir la musique, le compositeur?
Disons que là, pour le projet, au départ, c'était un peu 6 auteurs, 6 compositeurs. Donc, je pense que ça s'est fait pour les choix de Jean-Paul, un peu son parallèle à ce niveau. Il y a eu la coproduction avec La Chartreuse, le Théâtre Paris-Villette et puis la compagnie, le Lézard Dramatique. Et donc, au travers de ça, lui, je pense, le Lézard Dramatique, il travaille depuis quand même assez longtemps avec ce collectif de Lyon qui s'appelle l'ARFI. Donc, il y a 4 musiciens de l'ARFI qui sont donc Maurice Merle, Alfred Spierli, Guy Villers et puis Xavier Garcia. Et puis il y avait 2 autres musiciens, moi et puis Eric Alombert, qui sont des gens avec qui il avait envie de travailler. Donc c'est un mélange de 4 personnes qui se connaissent bien, qui travaillent un peu régulièrement ensemble, et puis 2 autres musiciens, quoi. Donc après, c'est vrai que le départ du projet, c'était 6 compositeurs, donc on pensait avoir un petit peu chacun la responsabilité d'un texte. En fait, ça a été beaucoup plus collectif que ça. Mais bon, il y avait quand même un petit peu, chacun devait s'occuper un petit peu particulièrement de tel texte ou de tel autre, quoi. Pour ma part, j'étais d'ailleurs plus sur Médicaments, qui est un texte d'Eugène Durif.
Donc c'est un travail, en principe, collectif.
Oui, c'est un travail collectif, même si le tout début, quand on en a parlé, c'était 6 compositeurs, 6 auteurs. Mais en fait, dans le fonctionnement, par exemple, pour Médicaments, moi je suis arrivé avec, je pourrais dire, des petites idées. J'avais préparé ça, c'était des petits squelettes divers. Et puis à partir de là, on a commencé à travailler. Bon, j'avais lu le texte et je m'étais inspiré de ce texte pour voir qu'est-ce qui me venait. Et puis les trois premiers jours de répétition à Lyon, en fait, à partir de petites idées et puis d'autres choses, c'est devenu, on pourrait dire, une composition collective, quoi.
Mais est-ce que ces 6 musiciens, compositeurs et interprètes aussi, et est-ce qu'ils ont des points en commun, ou est-ce que ce sont des musiques d'horizons très différents?
C'est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y a, bon, pour les musiciens de l'ARFI et puis pour moi, je pense qu'on travaille, alors on peut appeler ça, c'est des sortes de familles de musique, hein, qui sont entre l'improvisation, la composition, qui ont été ramenées des fois, alors il faut trouver des étiquettes, on a appelé ça musique innovatrice, musique nouvelle, musique de traverse, musique oblique. Moi, j'ai aussi un ami italien qui disait on pourrait appeler ça musique hétérodoxe. C'est vrai que c'est des musiques qu'on a du mal à classer, c'est des gens souvent qui travaillent aussi bien, ça va de les influences du jazz, aux musiques ethniques, à la musique contemporaine ou même au rock. Bon, par exemple, moi j'ai un petit passage dans Médicaments qui est en genre rock vraiment lourd, donc c'est peut-être la première
Hard.
fois à la charte.
Oh
Non,
non.
non. Non, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de frontières et d'étiquettes. Donc ça, c'est même si moi j'avais par exemple jamais travaillé avec les musiciens de l'ARFI, je pense que au niveau du langage, on avait vraiment des bases communes. Bon, Eric, qui est le guitariste, a peut-être travaillé plus sur un aspect un petit peu chanson, mais comme il n'y a pas vraiment ni étiquette ni frontière entre l'improvisation et la composition, je crois qu'après c'est des histoires d'atomes crochus et puis la cuisine se fait facilement, quoi.
Ajouter quelque chose,
Oui, je
Daniel
disais,
Girard.
nous avons créé un opéra rock à la Chartreuse. Alors le rock ne nous fait pas
D'accord.
peur du tout, au contraire, ça fait partie de la musique.
Mélodie 6, c'est donc à la Chartreuse, c'est cette semaine. Merci à Daniel Girard et merci à Dominique Lantin. Merci à tous. C'était la suite dans les idées depuis Avignon. Rendez-vous demain à midi.